Bonjour à vous, que vous soyez novices ou déjà des habitués de l'Ordre des Curieux. L'émission est comme toujours écrite et présentée par Robert Giroux, lequel est ravi de vous accueillir au 106.8 Radio Grand Ciel dans les studios de Chartres. Aujourd'hui sera notre rendez-vous annuel avec la voix, avec peut-être un accent particulier mis sur le chant harmonisé, sur le cœur donc. J'espère vous retrouver au mieux de votre forme et de votre morale, même s'il est vrai que ces jours-ci, comme le disait Léo Ferré, les temps sont difficiles. Le cœur donc, vieux mot, remontant à la tragédie grecque, mot qui désigna dans un premier temps l'endroit où l'on dansait. Il désignait aussi la troupe des danseurs, et qui vers le XIIe siècle désignera l'endroit où se tient l'autel et autour duquel viennent les clercs pour dire et chanter la messe. C'est donc l'Église qui a porté ce mot vers la signification que nous lui connaissons aujourd'hui et qui sera définitivement assise par l'usage. Le cœur. Ceci ne signifiant pas que nous serons exclusivement classiques aujourd'hui. La preuve immédiatement. Avec les Singers Unlimited, 5 voix chantant comme une seule, précision quasi surhumaine, sens éblouissant de l'harmonie, timbres immaculés. Quel que soit l'aspect que l'on en considère, les Singers Unlimited, c'était une Rolls-Royce, un au-delà de la perfection. J'ai choisi pour ouvrir l'émission leur version d'une des premières chansons de Joni Mitchell, « I don't know where I stand ». Puis nous écouterons Joni Mitchell elle-même, sa voix, ses mots et sa musique. Rien de plus. Dans « Shadows and Light », Joni Mitchell, ici, par la grâce du re-recording, fait chorale avec elle-même. C'est donc uniquement sa voix que vous entendrez. Plus quelques éléments de clavier, joués toujours par Joni Mitchell, et très nettement dans la façon d'un orgue baroque ou d'un harmonium. Seulement, elle le fait sur un clavier électronique des années 1970. La sonorité a donc terriblement vieilli. Mais ne vous arrêtez pas à cela, ce serait trop dommage. Et considérez l'ensemble, et le génie musical et la sensibilité de Joni Mitchell auront tôt fait de vous convaincre. D'abord, The Singers Unlimited, I Don't Know Where I Stand, extrait d'un album intitulé A Cappella Volume 2, puis Joni Mitchell dans Shadows and Light, extrait d'un album intitulé The Hissing of Summer Lawns. Bonne écoute.
Stand. Threatened by all things, devil of cruelty, drawn to all things, devil of delight, mythical devil of the ever-present loves, covering blindness inside. Sometimes in reservation dining rooms, pale miners in their lantern rays. Night and day. Hostage smile on presidents, freedom scribbled in the subway. It's like night and day. Threatened by all things, caught up cruelty, drawn. Of the everlasting laws governing day and night. Critics of all expression, judges in black and white, saying it's wrong, saying it's right. Compelled by prescribed standards or some ideals, we fight for wrong. Threatened by all things, men of cruelty, drawn to all things, men of delight, men of the laws, the ever broken laws, governing wrong.
De tout l'univers musical, la voix est le socle, la base absolue. Du violon au violoncelle, à la flûte, tous les instruments mélodiques et solistes induisent plus ou moins le même phénomène vibratoire que la voix. Et la mélodie elle-même est vibration, une onde qui se propage, s'extrait d'un ensemble de dispositions et de faits naturels que l'âme et l'esprit façonnent, retouchent, modulent, nuancent selon les contours sensibles d'une œuvre. La voix, tout autant qu'une association de principes et de données physiques, est un médium nous permettant de rendre audibles, donc réelles, des perceptions de pur esprit. Par la voix se produit un changement de dimension. L'immatériel vient à nous, dont nous recevons un écho, une traduction, une interprétation, mais un signal tangible. Et cela dit l'esprit à travers la voix. La voix qui détient à elle seule la quasi-totalité des principes musicaux. Elle a pourtant des limites, limites qui tiennent à ce que nous sommes, à la puissance de notre colonne d'air, à la force de nos poumons, à la conformation de nos visages, à la morphologie en général, et au plus fin détail de tout ce que nous sommes, nous et notre carcasse. Il y a cette expression « trouver sa voix » qui revient à trouver notre timbre le plus juste, l'intonation qui est la nôtre et qui nous signale, la hauteur, la façon dont nous respirons pendant le chant, le dessin de notre bouche, ses façons de nuancer, tout ce qui relève donc de notre intimité musicale. Il n'est pas deux empreintes digitales qui est une parfaite similitude, et en comparaison de cela, la voix, sa naissance, sa propagation en nous, la façon dont nous la projetons et celle dont notre auditoire la recevra, tout cela fait un système autrement plus complexe que la simple application des chairs sur un tampon pour en prélever une empreinte. Tout aussi vrai que dire que tous les instruments de musique descendent et procèdent de la voix, il est vrai de dire, en tout cas de considérer, que la voix humaine est un instrument de musique, et parmi les plus sophistiqués. Le geste musical est d'une nature et d'une étendue telle que nous en connaissons fort peu de semblables dans notre existence, proche peut-être de la macrochirurgie. Un musicien déplace insensiblement d'infimes surfaces de chair et crée des infinités de réactions, de conséquences, de modifications. Ce que nous nommons les nuances est le fait très souvent de mouvements si infimes que l'œil nu ne peut les voir. Une nuance de pulpe ou de souffle effectuée par un musicien qui se possède transformera intégralement les dispositions de l'instrument. La voix est notre centre et notre envol. Elle est notre racine profonde et la force qui nous permet de nous extraire d'elle. chanter. Combien de fois ai-je entendu « Mais chante comme tu le sens, laisse sortir comme ça vient, c'est pas grave, c'est que du plaisir. » Comme s'il ne s'agissait que d'expulser quelque chose comme la preuve audible d'un trouble digestif. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si l'insignifiant, c'était seulement à envisager, comme s'il suffisait de répéter à haute voix ce que la nature ordonne, et enfin, comme si le plaisir n'était pas chose infiniment sérieuse, comme si nous n'avions pas un certain empire à reconquérir celui, comme si nous n'avions rien à lui opposer ou encore à lui soumettre, comme si l'animalité était le fin mot de tout, l'inéluctable. Or, celui qui chante clame précisément le contraire, la fin de l'animal en nous, la mort de la bête, la disposition retrouvée au monde de l'esprit. Je pense ici au leitmotiv d'un spiritual américain qui disait « Satan, your kingdom must come down », ce qui signifie « Satan, ton royaume doit s'effondrer ». Et il me semble bien que le cher Victor Hugo a dit plus ou moins la même chose dans une poésie. Ne voyez pas dans cet emploi du mot « Satan » quelque chose qui est exclusivement trait aux religieux. Il faut entendre et comprendre là l'intrusion d'un mal qui cherche à pénétrer nos vies et à les manipuler. Cela peut être une dictature, une idéologie, une addiction qui cherche à se saisir de nous dans nos moments de faiblesse. Cela peut être le mensonge, et je pense ici bien sûr à cette république des cancanières que les réseaux sociaux entretiennent. Et puis cela peut être nous-mêmes, nos erreurs, nos méjugements, nos préjugés, nos insuffisances. Personne n'y échappe, ni moi, ni personne. Chanter, c'est donc recréer en nous un mouvement de vie qui était prêt de s'éteindre. C'est une déclaration, c'est un sursaut que réclame notre conscience.
I'm going to get my baby out of jail. I'm going to get my baby out of jail. Said she wasn't guilty, I'm not to go her bail.
I'm gonna get my baby.
Quand je dis « voix », je parle bien entendu de la voix maîtrisée et dûment impliquée dans l'enjeu d'une certaine lumière et grandeur des êtres. Et toutes les voix peuvent faire cela, et même toutes les chansons. Les chansons sont comme des vœux faits devant l'étoile filante, un instant de vie intérieure, d'intimité que l'on projette vers tout ou partie du monde extérieur, advienne que pourra. Et il n'est aucune hiérarchie en cela. La plus doucereuse des chansons d'amour égale le poème chanté, qui égale le chant de révolte, ou le chant de travail, ou bien le chant intérieur que l'on fredonne pour soi. En matière de chanson, la supplique amoureuse égale la prière. Non pas que tout se vaille, mais tout nous traverse, tout nous rend sensibles et conducteurs. Conducteurs, vous savez, comme on le dit en parlant d'électricité, de fil conducteur. Toutes les formes de chant révèlent, tout le chant révèle, même à contrario, même par l'absurde, même par accident d'écriture, même à son corps défendant. La grâce n'est pas un privilège, mais plutôt une floraison qui jaillit de terre par le fait de la bonté, d'un soin porté avec constance par un cœur juste. Nous ne sommes pas pour grand-chose, finalement, dans l'avenue de la grâce, mais il advient quelquefois que nous nous souvenons être au monde pour la faire advenir, la provoquer. Cette période que nous traversons, cette crise sanitaire, comme on dit, met en lumière que les activités cruciales à notre survie sont celles qui assurent le lien et conditionnent l'axe de cette survie. Les commerces de l'essentiel, les vocations secourables et le lien humain, quelques mots échangés, des nouvelles des uns et des autres, un sourire, voilà qui vaut tous les pansements du monde, tous les plans de relance. Durant cette période, beaucoup d'entre nous ont eu le temps et l'envie retrouvée de lire, d'écouter de la musique, temps de s'ouvrir et de s'enrichir. Le temps, voilà l'affaire. C'est tout ce qu'il nous faut et c'est tout ce qui nous manque. Alors si vous avez 5 minutes devant vous, permettez-moi de vous offrir un petit bouquet de chansons de ma confection. Alain Leprest et Richard Galliano, voix et accordéon. Ils nous interprètent Amoureux. C'est une chanson, vous le verrez, qui est bien loin d'être ce que l'on attendrait d'un duo traditionnel voix et accordéon. Mais écoutez plutôt.
Amoureux, amoureux, le temps perdu, c'est affreux. Sauf endormi sur ton ventre, ma belle horloge parlante, les jours ont l'amour contre eux. Amoureux, 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 quand on a un petit creux, on se grignote le cœur, sans piment et sans liqueur. Les épiciers sont furieux. Amoureux, 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 les oiseaux sont plus nombreux que les hommes sur la terre et tous leurs hélicoptères. Tu trouves que c'est heureux, amoureux, amoureux, amoureux. Chanter c'est pas très sérieux. L'amour, une fleur au bec, gravera nos noms avec la plume d'un macareux. Amoureux.
« La chanson « L'air de rien », « L'air de ne pas y toucher » est peut-être bel et bien une de ces vocations secourables dont je vous parlais tout à l'heure. Même si on est parfois en butte, en bisbille avec les chansons de son temps, on ne s'y accorde pas, on n'y trouve guère son compte, la source paraît tarie ou pire, empoisonnée. C'est un peu mon cas, quelquefois, je l'avoue. Mais il est des liens, des fils qu'il ne faut pas couper sans y réfléchir à deux fois et même plus. On ne tranche, on ne se sépare qu'une seule fois. L'acte est grave. Et puis, pourquoi s'alarmer ? Devenir difficile, exigeant et plus encore, en demander davantage toujours, tout ça, c'est bon signe. Signe qu'on évolue, signe que l'on grandit. La voix, donc. Voix seule ou bien voix d'ensemble, sans oublier les timbres instrumentaux. Car j'aime la confrontation, la rencontre de ces cosmogonies, voix-instruments, évoluant en parallèle et pas infailliblement compatibles entre elles. Un spectre, une étendue vocale ou instrumentale est chose fragile et complexe. C'est un bien grand mystère d'orchestration, par exemple, que de comprendre pourquoi certaines fréquences sont littéralement tuées par d'autres, comment certaines parties disparaissent du champ perceptible quand d'autres, pourtant de moindre primauté, se trouvent les dominer puis les exclure. L'art de l'orchestration est une science terriblement compliquée, fuyante. Cela s'apprend, bien sûr, et il y a plusieurs façons de se l'inculquer. Mais elle est avant tout l'affaire de toute une vie et d'un éveil constant. Et quoi qu'il advienne, de notre première à notre dernière note, nous signerons toujours à la fin notre échec à posséder cette science, que nous approchons seulement. Et la limite qui se prononce ici est celle que connaît tout être vivant, celle de finir un jour et d'être soumis à cette condition. Je vous propose à présent quelques voix éparses venant de contrées musicales parfois lointaines les unes des autres, mais toutes tentant l'union avec un instrument, un et un seul. Et j'ai choisi ici des instruments autres que piano ou guitare, qui sont des classiques avérés dans le couplage avec la voix. J'ai fait le choix ici d'instruments comme le saxophone, et peut-être le plus difficile dans la famille du saxophone, le soprano, instrument dont le regretté Daniel Hossig était un maître, timbre très acide et très sonore, qui évoquerait un peu le shinai indien. Vous savez, le shinai, si vous ne connaissez pas, c'était un peu l'instrument des charmeurs de serpents dans les films d'Hollywood. Alors, au sax soprano, ce sera Jan Garbarek, qui sera couplé ici au Hilliard Ensemble. Et ils seront suivis de l'ensorcelante Julia Fordham, duettisante avec la basse électrique fretless de Pino Palladino.
Thank you. The soldiers of my discontent march from my soul to my head. I'll make myself a prisoner, and this my latest self-made war. The angel of my higher self must be guarding someone else. Haunted thoughts may manifest, so many ghosts still left to rest. I wanna give up the fight and lose myself in your love. Give up the
parler. Est-ce ici le lieu d'en parler, justement? Pourtant, cette voix parlée pourrait être cette autre part nécessaire à une expression vocale, qui n'aurait pas a priori obligation d'être exclusivement artistique pour nous toucher. Une parole libre, vraie, sincère, peut être galvanisante et inspirer en nous de hautes pensées. Et puis l'art n'est pas le fait de tous, pas une extrémité à laquelle chacun doive et puisse tendre. L'art est ou n'est pas, et voilà tout. Et de plus, rien ne le prédestine ni ne l'oblige à se rendre public et à avoir quelque renommée que ce soit. Et non, l'art n'est pas le succès, pas la célébrité, pas le tapage. Il n'a de compte à rendre à rien, à personne. Alors la voix. La voix, ce n'est pas que le chant, pas que la musique. Il y a bien sûr l'art de dire, de conter, de donner vie au poème, aux mots et à l'espace silencieux d'entre les mots. Et les mots ne sont pas la musique. Ils ont simplement une sonorité, des sonorités ouvertes à l'interprétation, à une lecture subjective. Pardon peut-être de brusquer ici et de compromettre un rapprochement plaisant et tentant que l'on fait souvent d'avec la musique, quand on parle par exemple de musique des mots. Mais la musique est d'abord et avant tout l'art de faire œuvre sans les mots. Et dans un tout autre langage, langage dans lequel tout ce que nous avons conçu et acquis par la parole se retrouve sans valeur et sans signification aucune. La voix parlée, c'est aussi la voix historique, les voix historiques, documents sonores, parce que la voix, c'est aussi cela, le rappel de l'histoire. Et nous commençons, il y a plus d'un siècle de cela, 1906, sur la scène du Kafkons, où un jeune artiste de music-hall conduit la revue avec un humour quasi sans limite, avec un abattage et un bagout ravageur. On l'appelle Gabin, et rien ne lui résiste. Gabin, en voilà un nom. Un blaze qui fait plus que nous dire quelque chose, mais oui, Jean Gabin, le Gab, le taulier du cinéma français, le patron, Monsieur Gabin. Eh bien, c'était son père, Ferdinand Gabin, qui était déjà artiste de music-hall et qui posera littéralement sur les planches son petit Jean, qui lui succédera à la revue. Et Monsieur Jean Gabin chérira toujours la mémoire de son père. Gabin père qui s'éteindra un matin de novembre 1933, paisiblement, dans un fauteuil, alors qu'il était en train de lire une revue de cinéma où sur la couverture s'étalait le visage de son fils, devenu la grande promesse du cinéma français. On le retrouvera dans son fauteuil, serrant l'image de son fils contre lui. Gabin père a quitté notre monde ainsi, sur un instant heureux. Nous l'entendrons dans deux monologues, puisqu'au music-hall, on ne faisait pas que danser et chanter. On jouait des scénettes, on menait la comédie. J'ai choisi un monologue intitulé « Le train d'Épernay ». Essayez de tendre l'oreille, parce que ça a été enregistré sur un cylindre en 1906. Donc, ça n'est pas spécifiquement numérique, quoi. Ça s'appelle « Le train d'Épernay ». Où un monsieur monte dans un train et il ressent un besoin urgent et naturel qu'il n'a pas le temps de satisfaire, sur lequel il se dit qu'en montant dans le train, il trouvera bien l'occasion. Mais les événements s'enchaînent de façon telle que ça devient très compliqué. Voilà, vous allez voir, c'est une variation sur une chose qu'on connaît bien en ce moment, l'état d'urgence. Puis ensuite, nous ferons un bond dans le temps pour entendre Louis-René Desforêts nous lire quelques passages de ce qui fut son ultime ouvrage, Ostinato, qui parut chez L'Imaginaire, vous savez, cette collection de Gallimard. Ostinato est un terme emprunté au vocabulaire musical et qui décrit une séquence percussive ou mélodique se répétant sans varier tout au long d'une œuvre. Vous savez, comme cette percussion obsessive qui menait le boléro de Maurice Ravel jusqu'à son terme. Sur ce, je vous réitère la suggestion que je vous fais à chaque fois de veiller bien à vous-même ainsi qu'à vos proches. Et je vous donne rendez-vous en 15, sans faute. Alors, à tout bientôt. À vous revoir, gentes dames et bons messieurs.
Le train d'Épernay, monologue comique, récité par Gabin Tascala, record et dispote. M'en aller l'autre jour en voyage et permet la destination. À la part, j'arrive tout en nage, une belle fin d'été, mon wagon, mais j'éprouve l'envie de redescendre. Retard, hélas, le train parfait. Mais j'ai bête, vous devez la comprendre, il fallait que j'attende et permet. J'avais une très jolie voisine près de moi dans mon compartiment. Je sens le chauffeur assez bonne mine et lui décoche un compliment. Elle riposte par un sourire, sans remarquer mon air inquiet, car moi j'étais en train de me dire, oh, vais-je tenir jusqu'à Épernay ? Devinait-elle mon inquiétude, ces solitieux pleins de candeur me regardaient avec mansuétude. Soudain, ça s'arrête, oh bonheur ! À la portière, je me précipite, mais aussitôt un employé me dit, nous allons repartir de suite, vous descendrez à Épernay ! Sans en savoir au juste la cause, ma voisine voit mon tourment. Vous avez peut-être besoin de quelque chose, me demande-t-elle d'un air innocent. voulez-vous boire? J'ai la tanière. Vous êtes sans doute altéré. Pas du tout, madame. Au contraire, voilà pourquoi j'attends de fermer. Je ne puis donner ma souffrance. Qu'arriva-t-il l'instant d'après? Ah, j'en rougis lorsque j'y pense. Je ne me pardonnerai jamais. Enfin, il faut que je vous le raconte. Je n'attendais plus aucun arrêt. Voilà, oui, à ma honte, n'espérais plus rien lui permettre. Car l'enlant, que j'ouvris la portière quand le train s'arrêta, c'était fait. Il n'y eut que la chaudière qui fit de l'eau à éperner.
Mal doué pour l'exercice de la parole, reprise contre son vœu avec une timidité d'apprenti, doutant si c'est pour chercher à travers le corps dissocié du temps les moindres signes de son passage, ou garder ce qu'il faut de raison, ou s'y perdre jusqu'au vertige, livré aux caprices d'un mouvement décousu qui le jette bravement hors de lui-même, en annulant le jeu équivoque du retour à quelque expérience privilégiée, et cependant comme renvoyé par la ruée nourricière des mots à tout le tourment de sa propre vie. Il ne trouve aplomb que sur son propre vide, ignorant vers où va ce chemin qu'il reconnaît parfois curieusement à des traces qui ne sont pas les siennes, ne sachant pas davantage pourquoi il s'y est engagé avec tant de présomption. Si même à le poursuivre obstinément, il n'aura aucune chance de déboucher sur le lieu encore insoupçonné de sa destination. Trajet aveugle qui l'exalte, qui l'exaspère, comme la lecture d'un récit dont l'auteur eût été conduit à différer sans cesse le dénouement. S'il s'achemine vers un but inconnu auquel il ne devra jamais toucher, quelle force mystérieuse l'empêche d'y renoncer? Une sorte de courage ou une sorte de lâcheté? La vigueur séductrice d'une langue qu'il avait congédiée, mais peut-être aussi bien sa pauvreté, l'attrait de sa pauvreté. Le sombre plaisir de trahir son vœu, celui de remplir un office désespéré en donnant sans y croire valeur vivante à des figures dont l'apparition désordonnée ne se règle pas sur le travail de la raison. La fatigue de l'âge et l'impuissance à se taire qui souvent s'y rattachent. Blessé à mort, le héros d'opéra n'en continue pas moins de chanter sans mesurer son souffle, avec une mâle énergie, et c'est comme si tout son sang jaillissait et se répandait à flots sous les espèces de sa voix jusqu'à la rémission dernière. Par quel démon s'est-il laissé tirer d'une apathie si durement acquise? Pourquoi cette fièvre sur le tard dont la ténacité est l'un des traits les plus troublants? Toutes ces brûlantes images comme surgies à l'état brut d'un foyer souterrain, proliférant avec la force d'une épidémie, qu'aucun moyen, même s'il en était encore temps, ne serait assez puissant pour juguler, et les pauses destinées à ralentir le débit, loin de leur donner un coup d'arrêt, ne servant qu'à en prolonger les effets et en libérer de nouvelles prises à leur tour dans un mouvement aussi irrésistible que celui de la vie, et qui n'aura de terme cette fois que par extinction naturelle, défection subite, le sommeil sans rêve et laconique de la mort.